Voilà, ça commence à enregistrer. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous l'avais dit, c'est notre dernière session, mais ce n'est pas la dernière fois que nous nous voyons quand même. Moi, j'espère que nous nous verrons encore un jour ou l'autre. Voilà. Et la dernière fois, nous avions travaillé ensemble la célébration, l'onction des malades. Et comme nous avons pris l'habitude, nous pouvons effectivement. J'ai eu des questions déjà la dernière fois de la part de Xavier que je vous lirai et j'essaierai d'en parler un petit peu. Et puis j'ai une autre question qui ne concerne pas l'onction des malades, mais qui est plus. Qui regarde on peut dire, la place des femmes dans l'Église qui était posée par Jean-Marie. Voilà, je vous dirai ce que je peux dire, ce que on peut dire aujourd'hui. Voilà. Donc, je commencerai d'abord par les questions de Xavier. Il y avait deux questions et je remercie Xavier de les avoir posées. Donc, la première est celle-ci. Pour un malade psychique qui en a conscience et qui souhaite recevoir le sacrement des malades, très loin de la mort, l'Église dit-elle quelque chose? Alors, naturellement, il faut se demander quel type, à quel niveau est cette maladie. Est-ce que cette maladie, est-ce que sa condition de malade psychique lui empêche de participer à la liturgie? Voilà. Quelle est sa relation à la liturgie ou à la relation qu'il peut avoir aux autres. Toutes ces questions sont à poser. Je sais que, par exemple, cette année, à l'Institut de liturgie, on a eu un cours sur liturgie et handicap. Et donc, c'est quelque chose qui est très travaillé, on s'est rendu compte, qui était très travaillé, par exemple, en Italie, mais très peu travaillé en France, par exemple. Mais peut-être c'est pas en ce sens que vous le pensiez, Xavier. Mais effectivement, je pense que je dirais, il faut voir les raisons de convenance de cela. Est-ce que faut-il lui offrir l'onction des malades au risque de l'enfoncer dans sa situation de malade psychique? Ou faut-il l'intégrer normalement, je dirais, dans la liturgie? Vous voyez, c'est ça la question de discernement à avoir. Hein? Donc, il ne faudrait pas que, surtout s'il est loin de la mort, la réitération du sacrement des malades l'enfonce quelque part ou le cantonne dans une vision de maladie ou de personne à côté, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu, Xavier, si vous voulez ajouter quelque chose à ce niveau pour pouvoir y répondre davantage.
Oui, non, je pense très simplement à une personne qui est une cinquantaine d'années, malade psychique, qui en a bien conscience, qui est en hôpital
Oui.
et qui nous avait demandé de recevoir le sacrement des malades et on
Oui.
était bien embêtés par la question.
Oui. Mais
Puisqu'il était
si.
en santé à côté, enfin, je veux dire, c'était.
Oui.
Et il
Si.
est toujours
Si.
en vie.
Oui, si elle le demande et qu'effectivement elle est hospitalisée, elle vit une période longue d'hospitalisation
De toute sa vie.
de toute sa vie. Et donc peut-être qu'effectivement là, ça peut être une aide, c'est-à-dire ça peut être le sacrement peut être une aide spirituelle, morale, ecclésiale, comme on le disait, c'est-à-dire voilà, le corps ecclésial peut aller vers cette personne par ce geste. Je le rappelle aussi que, un peu comme on disait pour la confession, il faut non plus en abuser, c'est-à-dire il ne faut pas que ça devienne toutes les semaines. Vous rappelez, rappelons-nous qu'il y a bien sûr l'onction des malades, mais il y a aussi la communion aux malades. Donc on peut avoir une attention au malade, peut-être pas en lui proposant tout le temps l'onction des malades, mais la communion, le partage de la communion eucharistique peut être aussi une occasion, un moment dans lequel on dit à la fois la situation du malade, mais aussi le secours de la communauté ecclésiale. Voilà. Ça, c'est une chose. L'autre, c'est vous rapportez une expression qu'on peut entendre. Je lis la question et l'expression et la question. C'est très grave, il est mort sans avoir eu le temps de recevoir le sacrement du malade. Ça, c'était la phrase qu'on peut entendre. Pour l'Église, est-ce que cela change quelque chose et quoi? Effectivement, la phrase que vous rapportez, me semble-t-il, est encore liée à une vision qui est plus proche de l'extrême onction que du sacrement des malades. C'est-à-dire, on a cette vision que, du coup, si on n'a pas donné les derniers sacrements, c'est la personne peut vivre dans une situation de péril spirituel ou d'éloignement de Dieu ou de compte à régler avec Dieu. Vous voyez, tout ça, c'est un imaginaire assez négatif et peut-être dangereux. Et alors, je pense qu'effectivement, il faudrait un peu éviter d'avoir cette vision-là et se dire, à vivre plutôt, comment dire, inviter plutôt à vivre la miséricorde de Dieu. Dieu est plus grand que que notre temps, que les situations que nous pouvons vivre, que ce que nous pouvons apporter à quelqu'un. Donc, je pense que si nous avons fait tout ce qu'il fallait, si nous avons été proches de lui auparavant, bon, tout cela est plus que suffisant. Et puis, rappelons-nous que dans la tradition catholique, mais même à la tradition orthodoxe, absolument pas dans la tradition protestante, nous pensons que la prière, la communion dans la prière avec les défunts peut effectivement être en continuité avec la vie du défunt et donc du coup peut apporter quelque chose à la fois à ceux qui vivent le deuil hein, de la personne qui disparaît, mais aussi à la personne qui est décédée et donc qu'il y a une, comme nous disons même dans le credo, une communion des saints. Et donc que la mort ne termine rien, il termine la situation terrestre de la personne, et donc le fait qu'on puisse la voir, lui parler, toucher, mais il n'interrompt pas la relation spirituelle que l'on pouvait avoir avant et qui continue même après la mort. Voilà. Donc je dirais qu'en ces cas-là, prier pour le défunt avec les personnes qui sont dans le deuil, peut être important et peut soulager les choses. Je ne sais pas si j'ai répondu, Xavier.
Oui, tout à fait, merci.
Oui,
Enfin, c'était une question assez ouverte,
non, mais je
bien
pense que c'est
savoir comment
important.
la prendre, et
Oui.
c'est un élément de réponse.
Mais justement, même peut-être quand il y a des affirmations comme ça, c'est très grave, il est mort sans avoir le temps, peut-être parfois, nous, là où nous nous trouvons, nous pouvons être, comment dire, évangélisés ces perceptions qu'on peut avoir, une vision qu'on peut avoir de Dieu, juge, voilà. On peut, au contraire, par un accompagnement spirituel, par une parole autre que celle que nous entendons, en rassurant les personnes qui ont cette perception que Dieu est bien plus grand de cela. Voilà. Donc, c'est important aussi que nous puissions faire notre part à ce niveau-là. Et puis, donc, il y a la question de Jean-Marie. Jean-Marie, peut-être je vais essayer de trouver, je l'avais. Attendez, je vais le trouver là. Voilà. Voilà. Jean-Marie m'écrivait, je vais poser une question que j'estime centrale dans le débat actuel de l'Église, la place des femmes dans l'institution. Voilà. Il dit, c'est un phénomène qui semble devoir perdurer. Comment le lien notable de Jésus aux femmes, tant de fois évoqué dans les évangiles et maintes fois proposé à notre méditation, a pu les maintenir écartés au fil de l'histoire? C'est une vraie question, hein? Nous l'avons traité partiellement, si vous voulez, quand nous avons touché les questions du sacrement de l'ordre. Moi, j'ai essayé de voir qu'il y a des choses qui évoluent, mais il est évident que dans le catholicisme, je dirais même dans l'orthodoxie, peut-être moins dans le protestantisme, encore que, hein, il y a une perception, effectivement, on a comme l'impression que les femmes sont en deuxième plan. Hein. Je vous raconte cette anecdote parce que c'est tout à fait parlant, qui est très récent. Aujourd'hui, donc, je vous disais, j'ai présidé une jury de thèse et nous étions en train de passer, le jury était, nous étions cinq dans le jury de thèse et tous les cinq, nous étions des hommes. Alors, en passant dans la cour de la Cato, dans un des bâtiments de la Cato, un collègue nous dit, ah, je salue le jury de thèse, il n'y a que des hommes. Donc, il voulait dire que même dans les facultés de théologie, lorsqu'il faut, et pourtant ce n'était qu'un jury de thèse, je vous ferai remarquer, peut-être n'avait pas eu attention à la possibilité de demander à des collègues femmes au moins qu'il y en ait moins une, voire deux, mais deux, c'est trop demandé, qui puissent siéger dans un jury de thèse. Alors, ça, c'était une anecdote, justement, qui confirme un peu ce que dit Jean-Marie. Donc, il n'y a pas que la question des sacrements ou des liturgiques, mais il y a aussi vraiment la vision qu'on peut avoir de la place des femmes dans le gouvernement de l'Église. Vous savez que, justement, le pape nous invite à réfléchir sur ça, essaye de faire évoluer cette vision que l'on peut, parfois en proposant que des postes soient couverts, des postes de gouvernement ou de direction dans certains groupes de l'Église ou des structures de l'Église soient recouverts par des femmes. Mais je ne suis pas sûr que, à nouveau, que les mentalités change, ou disons, on est encore loin de voir. Alors, d'où ça vient cela? Effectivement, c'est assez. Nous nous approchons de Pâques, hein, et de la résurrection. Et il est quand même étonnant parce que si nous avons reçu l'annonce de la résurrection, c'est par des femmes.
Les femmes, exactement.
Hein? Donc, c'est paradoxal que nous vivions de l'annonce de la résurrection et donc qui était donnée par des femmes et que en vérité la place des femmes, comme dit Jean-Marie, soit dans l'Église soit très peu considérée. Alors d'où vient? Moi, vraiment, je tâtonne, j'essaie de répondre un peu comme nous le faisons dans le cours. Nous avons vu et j'essaie de donner quelques clés de lecture. Nous avons vu, en parlant des différents sacrements, l'importance de l'évolution historique des gestes sacramentaux et de la manière dont ils puissent évoluer. Et une des clés pour comprendre cette évolution, vous vous rappelez, j'espère que j'ai pu vous faire saisir cela, c'est vraiment le fait que l'Église et donc ses institutions, et donc les sacrements, et donc le gouvernement, et ainsi de suite, et s'inculture dans une culture, et ancré dans une culture. Et alors, on peut vraiment dire que ce n'est pas que l'Église qui a écarté les femmes dans l'histoire. La société, il a fallu quand même l'après-guerre pour leur permettre de voter, hein, par exemple. Les femmes ont eu des rôles peut-être essentiels, importants, ont trouvé toujours des places, ont occupé souvent des champs d'action autrement, mais effectivement n'ont pas eu la reconnaissance qui leur qu'il faudrait leur donner. Mais cela est lié, entre autres, à la culture. Et donc, l'Église reflète la culture. Peut-être qu'il y a des moments, par contre, et là, il faut le dire, où la culture ambiante s'est reflétée sur la structure de l'Église aussi. Ça, c'est vrai aussi. C'est-à-dire qu'à un moment où le christianisme devient majoritaire, peut-être, et où les villes deviennent chrétiennes de manière officielle, peut-être que le gouvernement s'inspire du gouvernement de l'Église. Vous voyez, un retour. Et donc, peut-être qu'il y a là un écart, une responsabilité, plutôt, voilà. Il y a plutôt une responsabilité de la part de l'Église. Mais généralement, je pense qu'effectivement, tout cela est lié à la culture. D'où, d'une part, votre question, et d'où ce ne sont pas des tensions, mais la montée de questionnements autour de cela, dans l'Église elle-même. Hein. Alors, en tout petit, j'ai voulu vous montrer que par l'institution de l'acolytat, du lectorat, et puis par l'appel du pape parfois à quelques responsabilités dans l'Église importantes quand même, de la part des femmes dans les différents dicastères ou dans la structure du gouvernement de l'Église, peut dire que quelque chose bouge. Mais effectivement, je pense que cela n'est pas encore assez ancré dans les mentalités.
Et
Et donc,
pourtant,
nous sommes loin de les faire avancer, de les faire bouger. Je ne sais pas, Jean-Marie, si cela vous satisfait. C'est toujours difficile de
oui, ben, vos
satisfaire
réponses
pleinement.
me satisfont pleinement, mais la question demeure. Hein.
Oui, bien sûr.
Vous parlez de situations paradoxales. Je note quand même, je relève quand même que les sociétés occidentales, moi, pour s'en tenir à elles, hein, elles ont quand même ouvert les portes. Hein,
Oui, tout à fait. Là, on voit effectivement un décalage, mais ça, c'est un peu vrai. L'Église est un peu en retard, un peu décalée par rapport à...
et je ressens une véritable souffrance parce que je trouve que c'est tout bêtement une injustice. Sous quel prétexte on peut écarter, hein, la moitié de l'humanité de la proximité de l'autel? Je pose la question ainsi, hein, tout simplement. C'est
Surtout
aussi.
que, oui, du point de vue des sacrements, par exemple, les femmes sont baptisées comme les hommes.
Bien sûr.
Il y a rien qui
Bien
les...
sûr,
S'il y a
bien
quelque
sûr.
chose qui nous rend égaux, au sens pas politique du terme,
Il n'y a
mais au
pas deux
sens...
catégories d'enfants de Dieu.
Voilà, c'est ça.
Hein?
Donc, cela peut nous interroger fortement.
Oui, je suis personnellement très triste, hein, de cette situation et très inquiet. Enfin, je ne me fais pas d'illusions. Il suffit de voir dans quelle impasse déjà les oppositions persistent. À l'égard, par exemple, des travaux du synode allemand. Alors, il y a d'autres problèmes. Hein. Il y a le problème des homosexuels, etc. Mais en ce qui concerne la place des femmes, on voit que c'est un peu bloqué. Hein. Il n'y a pas de voix généreuse qui s'élève. Il n'y a pas de. Quelquefois, ça se débloque comme ça, une situation qui paraît fermée. Eux, quelquefois, il y a eu des grandes voix, hein, dans l'histoire, pas seulement religieuse, mais Mandela, ces gens-là, Luther King, ce sont des gens qui ont fait avancer les choses. Et malheureusement, alors, moi, c'était le sens, hein, plus précis de ma
De la
question,
question.
puisque j'ai apprécié votre souci de raconter l'histoire, hein, je mets des guillemets à ça. Ce qui m'interroge toujours, c'est de constater que la situation s'est très vite bloquée, hein, pour autant que je le sache. Hein, c'est très vite, ça, pendant le premier siècle,
il n'y avait pas cette ségrégation. Bon, mais elle est venue très vite, hein, et elle s'est maintenue, et on peut dire renforcée, enfin aggravée. Hein, je crois que. Et c'est injuste, et surtout, ça n'est pas rationnel, si on peut introduire.
Oui, tout à
Hein, l'idée de
fait.
rationalité dans nos débats. Mais enfin, après tout, c'est ainsi que nous sommes faits. Hein. J'en éprouve personnellement une insatisfaction que je ne vois pas se combler court terme. Et ce qui m'étonne, c'est que finalement, ça ne fasse pas vraiment problème. On n'entend pas, une fois, un fond un fond sonore, une protestation, après tout. Bien
Si,
sûr.
si, si,
Hein?
si,
Bien
si,
sûr.
si. Si je peux me permettre, il y a des protestations quand même. Et les choses bougent tout doucement. Ça va avancer, ça va avancer. Mais
Je
ça
veux
proteste, oui.
vous croire, je veux vous croire, bien sûr.
Les filles,
Et en effet, c'est une bonne nouvelle que nous soyons baptisés, nous
Oui.
aussi.
Oui.
Est vrai, je pense qu'il faut garder cette tristesse de quelque chose qui n'est pas tout à fait accompli,
Ouais.
pas comme une tristesse, comment dire, mortifère, mais
Oui.
comme une tristesse au contraire qui devient un témoignage d'une position, d'une conscience.
Songez que du côté de Versailles, on discute encore des servantes d'hôtel.
Oui, on en parlait la dernière
C'est
fois.
pitoyable, enfin, c'est plus que triste, hein, c'est pitoyable. Vraiment.
Oui, surtout à un moment où, bon ben, ce serait bien s'il y avait un petit peu plus de prêtres. Et c'est vu que, voilà, il y aurait peut-être la relève, ou bien l'aide, ou bien un complément. Mais bon, enfin bon, bref, c'est triste, voilà. C'est mesquin, c'est mesquin. Enfin bon, ça l'était déjà au 1er siècle, hein, on n'a pas cru quand les femmes sont venues, les apôtres, ils n'ont pas cru les femmes parce que c'était des bonnes femmes, elles racontaient des histoires de bonnes femmes. Donc voilà, c'est pas nouveau malheureusement.
La lecture des apôtres nous en dit beaucoup, hein. Des actes des apôtres, pardon, hein, nous en dit beaucoup.
Alors j'arrive pas à lire le. Quelqu'un écrit dans la boîte. Oh, voilà, j'ai ouvert le. Cécile dit. Ah non, je reviendrai après à la question de Cécile, mais je reviendrai à Philippe qui dit, il y a tout doucement des choses qui bougent à Saint-Eustache, à Paris. Cinq femmes ont été invitées à assurer un commentaire d'évangile pendant les 5 dimanches de carême à la messe de 11 h. Donc, vous voyez, effectivement, bon, c'est tout petit, comme dit Philippe, mais peut-être c'est important. Mais voilà, je pense que c'est l'interrogation que vous posez, Jean-Marie, est importante qu'elle soit posée et qu'on la garde comme une question, au sens d'une permanence de quelque chose qui n'est pas juste, comme vous dites, et qui n'est pas, voilà, qui n'est pas juste, qui n'est pas ajusté par rapport au message chrétien. Voilà, je
Oui,
pense que c'est ça.
merci beaucoup.
Cécile revient, je n'avais pas vu cette réaction. Peut-on refuser de donner la communion à une personne atteinte d'Alzheimer? Moi, je pense, on ne peut pas refuser, naturellement. C'est toujours une question de convenance. C'est-à-dire, est-ce que cela peut se faire naturellement? Si on la force, c'est terrible. Voyez, mais par contre, si elle est capable de réagir d'une manière calme, et voilà, pourquoi pas, en sachant que, à nouveau, un peu, je comparerais cette situation au baptême des petits-enfants. C'est-à-dire, on baptise bien des petits-enfants qui n'ont pas conscience de ce qu'ils font, et peut-être qu'effectivement, la communion donnée à quelqu'un est malade d'Alzheimer, mais qui peut recevoir la communion de manière, comment dire, sans trop de troubles, hein, et sans trop de violence. Ça peut être, oui, pourquoi pas, ça peut être intéressant et important, voilà.
Merci.
S'il n'y a pas d'autres questions, au moins qu'il y en ait, sur la, pas seulement sur, le, sur l'onction des malades, mais comme vous voyez, d'autres questions, n'hésitez pas à les poser maintenant, avant de commencer le... la partie sur la célébration des obsèques. Tout va bien, donc. Je vais donc partager l'écran. Alors, ça, c'était l'ancien tableau. Et là, j'ai le plan, voilà. On disait la dernière fois, je vous annonçais comme dans une sorte de bande-annonce justement que nous traitions de ce sacrement, de ce sacrement, excusez-moi, voyez un lapsus, de ce geste rituel qui accompagne ce qui passe de la vie à la mort, voilà, ce qui nous quitte. Et que cette célébration, justement, n'est pas considérée, n'a pas été considérée comme un sacrement. Vous comprenez bien, tout sacrement s'adresse toujours à des vivants, pas à quelqu'un qui ne peut pas être présent. Donc, les sacrements sont pour le corps, d'un corps vivant, pas pour un corps mort. Mais pourtant, dans la prolongation de cette... des gestes qu'on a posés sur nous tout au long de notre vie dans la vie sacramentelle, des gestes sont posés sur le corps ou sur le cercueil, mais disons sur le corps pour rester dans cet imaginaire du corps, sur le corps du défunt. Et assez souvent, les gestes que l'on pose sur le défunt ou autour du défunt sont une réplique, sont une réitération des gestes qu'on a posés déjà par les autres sacrements. Et donc, nous le verrons quand nous parlerons plutôt des gestes rituels. Et donc, je voudrais d'abord, comme nous le faisons habituellement, vous parler du développement des rites funéraires et puis rentrer dans la... dans le rituel lui-même et voir comment il se présente. Il permet de faire une expérience de... Alors là, vous voyez le sous-titre est faux. Hein. Ce n'est pas le rituel du sacrement pour les malades, pastorale célébration, mais c'est le rituel des obsèques. Hein. Donc, il y a une erreur de copier-coller très mauvais que je jugerais comme... un 11 de la part de mes étudiants. Donc, du coup, oui. Je me note moi-même. Voilà, donc, corrigez à la main, c'est là, si vous pouvez. Voilà. Donc, le développement des rites funéraires, donc la tradition liturgique. Alors, à nouveau, vous pouvez imaginer qu'on passe de quelque chose de très clair et simple à quelque chose de très compliqué et négatif et sombre. Eh bien, on peut dire que les rituels chrétiens n'ont pas été créés de toutes pièces, et ils s'enracinent dans les coutumes existantes. Nous l'avons déjà vu pour d'autres sacrements. Hein. Ils s'enracinent dans quelque chose qui existe déjà. Et les transforme selon une nouvelle approche de la mort. Et donc, pourquoi il les transforme? Parce que l'événement de la mort et de la résurrection du Christ au cœur de la foi chrétienne n'implique pas directement un nouveau rituel de la mort. En effet, Jésus, après sa mort sur la croix, a été enseveli selon les coutumes de l'époque. Nous l'entendrons dans les évangiles au cours de la Semaine Sainte. Et de même, la manière dont les funérailles du premier témoin du Christ, Étienne, mort qu'on relate dans les Actes des Apôtres, eh bien, les funérailles d'Étienne sont évoquées dans les Actes, justement, et font penser au rite habituel qu'on pouvait observer dans le monde juif. Les Actes des Apôtres, au chapitre 8, verset 2, dit ceci: « Des hommes pieux l'ensevelirent et firent sur lui une grande lamentation. » Donc, vous voyez, donc il y a cette pratique d'ensevelir un mort et de se lamenter sur la mort de celui qui meurt. Ce rite en Palestine, donc dans la Palestine où Jésus a vécu, est assez simple en vérité. Le corps est enseveli le jour même du décès ou le lendemain du décès. Il est inhumé à même la terre ou bien, pour les familles aisées, il est enveloppé dans un linceul et déposé dans une chambre funéraire creusée dans le roc. Alors là, déjà, nous pouvons remarquer que Jésus a été enseveli comme un riche. Les évangiles nous disent que comme une personne aisée. Mais pourquoi? Parce que Joseph d'Arimathie lui a donné le tombeau qui était creusé dans le roc. Donc c'est un notable juif et lui donne ce tombeau. Les rites de deuil, toujours à la suite du décès d'une personne en Palestine, je suis bien encore là, ces rites ressemblent aux rites de pénitence. Au rite de pénitence, à quoi consiste? C'est très biblique, hein? Au moins très lié à la tradition biblique et donc à la tradition juive. On déchire ses vêtements, on se répand la tête de cendre. Ce sont des gestes de pénitence, cela. Et donc, par ces gestes, on veut manifester une sorte de participation à la mort, d'anéantissement symbolique. On veut partager la condition de celui qui est mort, vous voyez, on veut quelque part la partager. Et les lamentations apparaissent comme un rite essentiel. Vous savez qu'encore aujourd'hui, elles perdurent en Orient, et même, je pense à l'Italie, dans les pays du sud de l'Italie, on peut encore trouver ces formes de lamentation de la part de personnes qui sont indiquées pour faire cela. Il faut penser que le monde gréco-romain aussi connaissait de telles lamentations. D'une manière générale, on peut dire que les premières générations chrétiennes suivent sans problème les coutumes locales, suivent les coutumes locales, aussi bien dans le monde grec que dans le monde romain, d'autant plus que les funérailles sont des cérémonies familiales plus que religieuses, sont plutôt des cérémonies familiales. Et en Orient comme en Occident, les chrétiens suivent les usages de leur temps et ils y apportent quelques modifications inspirées par leur foi. Naturellement, ces modifications sont inspirées par la foi en la résurrection. Et donc, cela se manifeste aussi bien dans les rapports aux rituels qui entoure la mort que dans les coutumes et les pratiques qui accompagnent ce rituel. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'époque patristique, c'est-à-dire de ce qui suit l'époque des apôtres, donc entre le 3e et le 6e siècle? Eh bien, on peut dire que les chrétiens n'accordent pas aux funérailles la même importance décisive que les païens. Les chrétiens sont beaucoup plus sobres par rapport à ces coutumes funéraires. En effet, la résurrection des morts invite les chrétiens à proclamer que leur joie est plus forte que leur peine. Et l'espérance de la résurrection relativise aussi l'obligation des funérailles. Par exemple, on peut le voir dans les récits des martyrs, des premiers martyrs. Assez souvent, les premiers martyrs ne tiennent pas trop qu'on les qu'ils puissent connaître une inhumation ou un ensevelissement. Nous avons par exemple l'exemple d'Ignace d'Antioche, un des premiers martyrs, qui se soucie fort peu de son enterrement et qui est plutôt préoccupé de donner sa vie pour Dieu. Dans un texte quasi lyrique, il exprime son désir que les bêtes soient son tombeau. Donc, vous voyez, il y a une sorte de perception que l'ensevelissement est relatif. Savoir où on va trouver le corps est vraiment relatif, n'a pas beaucoup d'importance. Et de même, les chrétiens de Lyon, les premiers martyrs à Lyon, malgré leur regret de ne pouvoir donner de sépulture, jugent dérisoire la volonté des persécuteurs de ne laisser aucune relique en jetant leurs cendres dans le Rhône. Donc les persécuteurs disaient « on jettera les cendres de ces chrétiens dans le Rhône » et les chrétiens de l'église de Lyon ne trouvent pas ça trop scandaleux ou ne réagissent pas face à cela. Dans la même ligne, alors qu'on attachait beaucoup d'importance au fait d'être réuni à ses pères ou inhumé dans la terre, Augustin, le grand Augustin, Augustin d'Hippone, rapporte l'indifférence de sa mère Monique au moment de sa mort quant au lieu de son enterrement. Augustin rapporte cette phrase de Monique, je cite, « Ensevelissez mon corps où bon vous semblera, et ne vous en inquiétez point, je vous demande seulement de vous souvenir de moi devant l'autel du Seigneur, en quelque endroit que vous soyez. » Voyez, donc c'est plutôt la mémoire du défunt. Monique dit à côté de l'autel. On peut penser effectivement la célébration de l'Eucharistie dans laquelle on fait mémoire des vivants et des morts. Et qu'est-ce qu'on peut dire toujours à cette époque sur le rituel des funérailles? Tout d'abord, le défunt est revêtu d'un vêtement blanc qui rappelle son baptême. Vous rappelez que, et encore aujourd'hui, le baptisé est revêtu d'un habit blanc, d'un vêtement blanc à la sortie du baptistère. Et ce geste est répété au moment de l'ensevelissement. Les lamentations, qui étaient comme on a vu, des pratiques coutumières dans les différentes cultures, vont être remplacées par le chant des psaumes. Et c'est une transformation profonde de l'approche de la mort, car ces psaumes expriment non plus la tristesse, mais la joie d'un événement heureux est dans la foi. En plus, la coutume romaine de placer une pièce de monnaie dans la bouche du défunt est supprimée. Les chrétiens suppriment cette coutume, mais justement, le chrétien reçoit, quand cela est possible, le viatique, c'est-à-dire le pain de la vie au moment de mourir, qui le fait déjà communier à la vie éternelle. Voilà. Donc, il y a un remplacement par le pain eucharistique. Troisième aspect, quatrième plutôt, de coutume chrétienne, on offre l'Eucharistie pour les défunts et même on célèbre l'Eucharistie pour le défunt sur sa tombe, c'est-à-dire sur le lieu même où le défunt est enseveli. Et puis, à partir du IVe siècle, on va introduire l'encensement du corps du défunt pour marquer le caractère triomphal des funérailles chrétiennes. Le défunt est celui qui entre dans la nouvelle vie, qui... Et donc, ça devient, on le retient comme un triomphe. Sixième aspect, toujours du rite de funérailles à cette époque, à Rome et dans les grandes cités occidentales, la pratique de l'incinération, était courante pour des raisons d'hygiène et des prix du terrain, eh bien, les chrétiens vont peu à peu préférer l'inhumation jugée plus conforme avec la foi en la résurrection des corps. Quand on passe au rituel du Moyen-Âge, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Tout d'abord, un premier état, c'est le rituel de l'Église de Rome au 7e siècle. Eh bien, nous avons un document qui est témoin de ces pratiques funéraires au 7e siècle. Et ce document nous rapporte aussi la manière dont se déroulent les funérailles. Alors, on voit déjà certains aspects qui s'ajoutent à ce que je viens d'évoquer pour le 3e et 6e siècle. Tout d'abord, on va voir apparaître une préparation à l'approche de la mort avec la communion à l'Eucharistie et une lecture de la passion du Christ dans les évangiles jusqu'à ce que l'âme sorte du corps, jusqu'au dernier soupir de la personne qui est en train de mourir. Donc on accompagne la mort de la personne par cette lecture de la passion dans les évangiles. Deuxième aspect, au moment même de la mort, on chante une antienne qui est encore indiquée aujourd'hui dans les funérailles chrétiennes, au moins dans les liturgiques, qui dit ceci: « Venez, saint de Dieu, accourez, ange du Seigneur, venez accueillir l'âme de… » Voilà, donc il y a l'idée que les anges viennent accueillir ou porter l'âme de la personne qui… meurt, et ce chant est suivi du psaume 113, qui est un psaume pascal, hautement pascal, qui commence par « Quand Israël sortit d'Égypte », voilà, le fleuve La mer, c'est ouverte, voilà. Donc il y a l'idée d'un passage, d'une Pâque. Hein. Troisième aspect, vont avoir lieu les rites de la toilette funéraire, auxquels font suite le fait de placer le corps sur un brancard et le fait de couvrir le visage du défunt. Et puis, une procession va de la maison du défunt vers l'église et la procession est introduite à nouveau par un chant de psaume. À l'église elle-même va avoir lieu un office, mais qui n'implique pas la messe. C'est un office qui est composé de psaumes, de cantiques, d'antiennes, de lectures, vous voyez, ce n'est pas, mais il n'y a pas la célébration de la messe. Et puis une seconde procession va de l'église au lieu de sépulture, et elle aussi accompagnée de psaumes, d'antiennes, voilà. Et le rite se termine par le chant du psaume 117, autre chant pascal, que nous entendrons à Pâques, là où le psaume dit « Ouvrez-moi les portes saintes, une fois entré, je louerai le Seigneur », dit le psalmiste naturellement. Donc il y a cette idée d'entrer dans la maison de Dieu. Et donc vous voyez bien que cette ritualité souligne l'aspect pascal de la mort, l'aspect pascal, la dimension pascale de la mort. Mourir, c'est vivre une Pâque. Et puis, on peut aussi constater qu'il y a dans ce type de ritualité la volonté d'accompagner le défunt, celui qui est en train de mourir, pour ce passage, au moment même de mourir, ou pendant qu'il est en train de mourir, jusqu'au tombeau dans lequel il va reposer. Vous voyez, donc il y a vraiment l'idée d'accompagner le défunt. Et puis, il y a comme une sorte de tonalité lumineuse, apaisée par le chant des psaumes, des antiennes. Vous voyez, un aspect positif, je dirais, malgré la... Voilà. Quand on passe vers le 8e siècle, juste un siècle après, à des usages qui viennent plutôt des pays germano-francs, donc dans le nord de l'Europe, c'est là qu'on voit apparaître les premiers livres liturgiques, et c'est là qu'on retrouve une sorte de changement de cette vision plutôt positive, optimiste, pascale, joyeuse de la mort. En effet, les diverses prières qui viennent de ces nouveaux livres liturgiques de ces pays germano-francs témoignent d'une inflexion dans l'approche de la mort avec une tonalité plus sombre, une tonalité plus sombre. À l'atmosphère confiante du rituel romain va s'ajouter une inquiétude pour le défunt, une inquiétude pour le défunt. En quel sens? Dans le sens qu'on considère le passage dans l'au-delà comme un voyage périlleux, comme un voyage périlleux. Et donc, on a tous les rituels commencent effectivement après la mort. Vous voyez, il n'y a plus la prise en compte de la personne qui est en train de mourir, mais les rituels commencent tout de suite après la mort du défunt et s'intéressent surtout au voyage de l'âme du défunt et n'intègre plus de manière aussi forte l'événement de la mort corporelle, le moment du passage de la mort corporelle. Et donc, ce qui est souligné, ce sont plutôt les risques de la condition humaine. Et donc, on va insister sur la peur du jugement et des peines dans l'au-delà. Le jugement et les peines dans l'au-delà. Volontiers, on parle de la mort comme d'une libération de chaînes, de liens, comme libération du monde de péché. Vous voyez, une vision vraiment très négative, pessimiste. Et donc, on affirme une vue plus pessimiste, justement, du monde, du corps, des corps, de la chair. Et on va donner beaucoup de place à la vision du péché du défunt. Et cela va caractériser les rituels. Qu'est-ce que cela provoque? Cela provoque justement l'émergence de la prière d'intercession pour le défunt. S'il y a tous ces périls qui entourent le défunt, il faut intercéder pour lui. Et donc, l'Église offre ses prières pour le défunt, qui est à la fois suppliante et confiante. La miséricorde de Dieu reste source d'espérance. Et les oraisons font alterner une confiance paisible et de demandes pressantes. Mais à travers les dangers de l'au-delà, dans la continuité du rituel romain, c'est bien vers un lieu de lumière et de repos que l'on accompagne à travers les prières les défunts. Dans un autre rituel qu'on peut situer plutôt vers le 10e siècle, là nous étions au 8e siècle, vers le 10e siècle, nous avons un autre rituel qui est introduit à Rome. C'est un rituel qui vient des pays germano-francs du Nord et qui va arriver à Rome. Et donc, c'est une sorte de synthèse entre le rite romain et le rite des pays du Nord de l'Europe. Eh bien, dans ce rituel, on développe davantage un sentiment totalement absent des prières et des chants des rituels anciens que nous avons vus jusqu'à maintenant. C'est que à l'attente de la parousie va se substituer la crainte du jugement. La crainte du jugement. Et donc, le thème du jugement dernier prend une importance considérable et dans l'iconographie et dans la liturgie. Dans l'iconographie et dans la liturgie. Et donc, on va avoir, on va développer une crainte particulière au jugement de Dieu, au jugement de Dieu. Et donc, si auparavant la peur était liée au voyage que faisait l'âme du défunt, là maintenant la peur s'axe sur le jugement de Dieu qui apparaît comme terrible, comme terrible. Et donc, la liturgie va, c'est à cette époque-là où on va introduire dans la liturgie les grands chants que nous connaissons et qui font partie du patrimoine, pas seulement du chant liturgique, mais aussi du chant profane. Par exemple, le Dies Irae, vous voyez, le Dies Irae, le chant de terreur hein, qui dit le jugement de Dieu. Du coup, On avait vu que dans la pratique de l'Église ancienne, la messe ne semblait pas prendre beaucoup de place. La célébration de l'Eucharistie ne semblait pas prendre beaucoup de place. Mais là, à partir du Xe siècle, notamment sous l'influence des milieux monastiques, je vous ai toujours dit « méfiez-vous des moines hein. ». Bon, sous l'influence des milieux monastiques, on voit apparaître la messe comme élément principal de la liturgie des défunts. Et donc, le sacrifice du salut va devenir l'offrande éminente pour invoquer la miséricorde de Dieu. Cela fait de la station, de l'arrêt du cercueil, du corps du défunt à l'Église, le fait devenir cela, ça devient le moment principal, le cœur du rituel, naturellement pour célébrer la messe en faveur du défunt. Les messes pour les défunts, naturellement, deviennent très importantes et donc il y a tout un système de messes qui se développe, qui se multiplie. Il y a à ce moment-là ce qu'on appelle la multiplication des messes pour les défunts. Et les monastères deviennent, excusez-moi d'employer cette expression, mais c'est exactement ça, des usines à messes pour les défunts. Je vous fais remarquer que du point de vue architectural, c'est à ce moment-là qu'on construit les chapelles latérales dans les églises, même les églises monastiques. C'est pour permettre aux différents moines, la plupart des moines qui pouvaient le faire, de célébrer les messes pour les défunts, pour lesquels, naturellement, ils recevaient une rétribution. Voilà, donc du coup, il y a aussi le lien entre donner de l'argent en vue d'une célébration de la messe en faveur du défunt. À cette époque aussi, on voit, à partir de cette époque, on voit une cléricalisation des funérailles. Nous l'avons vu, qui est complètement différente de ce que nous avons vu au premier siècle. Et donc, la distinction à cette époque entre clerc et laïc va s'accentuer. Et donc, la gestion du sacré revient au clerc et les actes religieux doivent être accomplis ou présidés par un prêtre. Et donc, la généralisation de la messe va encore plus donner d'importance au prêtre. Voyez. Enfin, on peut, avant de faire la pause, juste conclure cette évolution juste avant le concile avec le rituel tridentin. Et en effet, c'est en 1614 que le rituel romain va être publié et adopté par l'Église romaine à la suite de la réforme protestante. Je le souligne tout le temps, hein. Vous voyez bien que naturellement, vous pouvez bien comprendre que l'une des critiques protestantes était celle qu'il fallait pas, que c'était scandaleux qu'on paye des messes et qu'on fasse un marchandage avec Dieu sur ces questions-là. Voilà. Et donc, on va voir à partir du Concile de Trente un rituel plus pastoral. On va avoir le souci de la pastorale du deuil ou lié au défunt. En effet, ce rituel, issu du Concile de Trente, donne une place importante aux funérailles et attire l'attention sur la responsabilité du curé de la paroisse à l'égard des mourants. Et donc, effectivement, le prêtre demande que les paroissiens l'avertissent quand un fidèle se trouve en danger de mort. Oui, c'est le danger de mort qui devient important. Et s'il ne peut pas être partout, il doit se faire remplacer dans les visites du celui qui est en train de, ou celle qui est en train de mourir, doit se faire aider par un autre prêtre, voire par un laïc. Le rituel précise aussi que la célébration des funérailles, hormis la messe, peut être présidée par un diacre. Et donc, le rituel semble ne pas donner une fonction sacerdotal au rituel des funérailles. Cependant, à travers ce rituel, l'accompagnement des mourants, la célébration des funérailles, l'inhumation au cimetière apparaissent comme un des principaux ministères des curés. Vous vous rappelez, je vous renvoie à ce que nous disions par rapport à l'extrême onction. Et, au moment où quelqu'un meurt, il faut l'extrême onction et donc le viatique et la confession. Donc, du coup, il y a ces actes-là qui disent le moment de la mort. Donc, effectivement, confession et viatique est réservée aux prêtres. Mais le rituel donne, comment dire, ouvre quelque chose de plus positif qu'on avait un peu perdu au cours de l'histoire. C'est le fait de l'importance de la préparation à la mort. Et en effet, le rituel met l'accent sur la préparation à la mort et il revient donc au prêtre de donner l'absolution, l'extrême onction et de faire ce qu'on appelle la recommandation de l'âme avec des prières qui accompagnent la mort du défunt. Je m'arrêterai là pour le moment, et puis après la pause, on va voir qu'est-ce que le Concile Vatican II va apporter de nouveau par rapport à ce que nous avons entendu jusqu'à maintenant, et nous allons nous regarder un peu de plus près le rituel des funérailles tel qu'il est proposé juste aujourd'hui à la suite du Concile. Nous sommes là plus ou moins 21h08-10. Je vous propose de nous trouver à 21h20, 10 minutes de pause. À tout à l'heure. Voilà, nous pouvons reprendre notre cours.
Oui.
Je repartage l'écran. Voilà. Donc, nous en étions arrivés ici au Concile Vatican II et première perception qu'on peut avoir, c'est qu'effectivement le Concile, donc je suis à ce point-là, le Concile va expliciter justement l'une des raisons qui appelle à un changement du rituel jusque-là employé à l'issue du Concile de Trente, donc jusqu'au Concile Vatican II. Et une des raisons, c'est une raison de nature doctrinale et liturgique. Lorsqu'il statue le Concile dans la Constitution sur la liturgie au numéro 81, il statue ceci, je cite, « Le rite des funérailles devra exprimer de façon plus manifeste le caractère pascal de la mort chrétienne et devra répondre mieux aux situations et aux traditions de chaque région. » Donc, vous voyez, l'idée de la centralité du mystère pascal et de l'attention aux différentes coutumes des différentes églises. Et donc, on va opérer des choix dans cette réforme, dans cette révision du rituel. En effet, à l'origine de la décision qui vise à réformer la liturgie des funérailles se trouve la conscience que le rituel hérité du Concile de Trente n'exprimait pas de façon adéquate la richesse doctrinale contenue dans la vision chrétienne de la mort et que les mutations culturelles imposaient d'en revoir la pastorale. Et donc, le débat qui eut lieu au cours des échanges du Concile le montre clairement. Et en effet, on va donc statuer que le rituel soit centré sur le mystère pascal. Et effectivement, au cours des travaux de la commission qui est censée promouvoir ce nouveau rituel, les préoccupations doctrinales et pastorales vont effectivement supporter la réforme du rituel en tant que tel. Et donc, on va avoir un premier rituel en langue latine en 69, et puis le rituel en langue française en 72. Donc, quelles sont les caractéristiques principales de ce rituel? Je prends là naturellement celui en langue française. Eh bien, une comparaison globale montre que ce qui différencie ce rituel donc de 72 du rituel tridentin de 1614 est la restauration très nette d'une perspective pascale et ecclésiale. Cela ressort en particulier de la richesse des thèmes que l'on voit dans les prières du rituel en tant que tel. Et donc, ce sont des prières traditionnelles, mais dans lesquelles on a surtout un langage très biblique. On va faire référence à la Bible et on a essayé de ne pas donner une importance excessive au thème du péché de l'intercession, du pardon, et on va recourir à une répartition plus équilibrée des textes et l'insertion d'autres thèmes comme celui de l'espérance, de la résurrection, de la rencontre avec Dieu. On souligne aussi à plusieurs reprises que le climat communautaire doit caractériser toute célébration liée aux obsèques. La liturgie des funérailles doit être tout entière, une profession de foi en la Pâque du Seigneur et un moment de communion intense avec celui qui n'est plus, avec ceux qui pleurent sa disparition. Le numéro 1 des notes doctrinales et pastorales dit ceci, je vais essayer de le retrouver. Voilà, on a un extrait de ces notes doctrinales et pastorales que je vous avais envoyées. Bon, ça c'est la présentation de l'ouvrage. Voilà, on dit donc l'attitude chrétienne au moment du deuil, hein. La mort qui met fin à une vie terrestre bouleverse et désorganise la vie des proches. Les chrétiens qui connaissent un deuil sont invités à vivre la mort non seulement comme une disparition, une rupture dans le temps, mais aussi comme un passage dans l'exode et la figure première. Donc l'idée du passage, d'une Pâque. Alors, l'idée que dans la mort de toute personne se réalise une communion mystérieuse avec la mort de Jésus. Donc on met en relation la mort du défunt et la mort de Jésus lui-même. Et puis du côté des proches du défunt, l'événement de la mort représente une séparation, un moment d'intense humanité, le début d'un temps de deuil. Et donc, à ses proches, la communauté qui les entoure, la Pâque du Christ, nouvel exode, se présente de manière singulière. Et après, donc, le numéro 5 souligne que, respectant le chemin emprunté par toute personne et par le Fils de Dieu lui-même, l'Église ne cesse d'accompagner les défunts et leurs proches en célébrant le mystère pascal du Christ. Vous voyez l'importance donnée au mystère pascal et au fait de l'accompagnement de ceux qui sont en deuil et de celui qui vit cette mort. Et puis, en méditant le mystère de la passion et de la mort du Christ, le croyant reconnaît la manifestation ultime de l'amour du Seigneur pour les hommes et les femmes de tous les temps. En mettant sa foi à la résurrection du Christ, il découvre la véritable horizon de toute vie humaine. Il y a l'idée de l'intercession pour les défunts, voilà. La prière pour ceux qui sont dans la peine, donc on unit les deux aspects. Généralement, nous tenons les deux dimensions. Les protestants vont davantage dire que c'est plus important de prier pour ceux qui restent. Voilà. Donc, ils vont souligner plutôt cet aspect des vivants qui doivent porter le deuil que non celui du défunt qui trépasse et qu'il confie à la miséricorde de Dieu. Les notes doctrinales soulignent aussi la dimension sociale et ecclésiale du deuil. Voyez, il y a l'idée que devant la mort, la souffrance, les vivants se sentent appelés à resserrer le lien, donc le fait d'entourer ceux qui vivent cela. Et donc, il y a l'idée que les prières, les rites, les autres moments de rencontre constituent des temps où la bonne nouvelle du Christ vient au-devant de ceux qui connaissent le deuil. Donc, il y a l'idée que la liturgie est un support, une aide hein, pour ceux qui vivent ce deuil. Et puis, le numéro 10, souligne davantage l'idée de la prière de l'Église comme expression de foi, et donc comme une prière qui accompagne les différentes phases du deuil. On a là, on le verra après à partir de la célébration elle-même, des étapes de la prière de l'Église pour les défunts. Il y a divers mouvements des funérailles qui supportent et font vivre cette prière. Vous voyez bien qu'on redécouvre l'idée d'accompagner par la prière au moment de la mort, et donc des prières brèves auprès du défunt, des célébrations et des veillées avant d'inhumer le corps, au moment de la fermeture du cercueil, lors du transfert au lieu de la célébration des obsèques. Et puis, au moment où on transfère le cercueil au lieu de la sépulture et au cimetière. Et donc, on tient compte de trois lieux, de trois stations, comme on dit. Le mot station, ça veut dire là, on s'arrête dans un lieu précis, hein, là où on dit le domicile du défunt, voilà, l'église et le lieu de la sépulture. Il y a quelqu'un qui me pose des questions. Voilà. On y reviendra. L'incinération est-elle admise? Oui, bien sûr. Le rituel prévoit le cas où la famille choisit d'incinérer le proche qui meurt, et donc il prévoit que cela soit englobé dans la ritualité des funérailles. Je passerai donc effectivement à la célébration elle-même parce que nous en arrivons là. Et donc vous montrer comment effectivement cela est pensé. Je vous parlais tout à l'heure de trois stations, vous le voyez, au lieu où repose le défunt, au moment où on célèbre les obsèques et au lieu de sépulture. Il y a trois lieux. Alors là, à nouveau, on pourra en parler à la fin du cours, à partir d'un échange qu'on peut avoir. Naturellement, cela est très changeant. On a des mutations. Cela tient compte encore peut-être d'une société dans laquelle le défunt avait des lieux bien précis. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est plus difficile de faire vivre ces trois moments comme un moment continuel, continu. Parce que vous voyez bien qu'entre le lieu où repose le défunt et le lieu où on célèbre les obsèques, il y a le transfert du cercueil vers le lieu de la célébration des obsèques et du lieu où on célèbre les obsèques, généralement l'église, au lieu de sépulture. Il y a le transfert au lieu de la sépulture. Donc, il y a toujours l'idée, le transfert dit l'idée d'une procession. Vous voyez là, j'ai indiqué là le mot procession, d'un déplacement du défunt d'un lieu à l'autre, qui naturellement est un déplacement symboliquement parlant. C'est un exode, on disait. Donc, on parcourt, on a encore une démarche vers le lieu du repos, qui est le lieu de la sépulture, du lieu où on a vécu, en passant par le lieu où on a reçu les sacrements de la foi chrétienne, c'est-à-dire l'Église. Et donc, vous voyez qu'au lieu où repose le défunt, on prévoit quatre moments. Le moment de la mort, des prières après la mort auprès du défunt, la célébration de veillée, c'est-à-dire de prières faites voilà, auprès du défunt, et puis au moment de la fermeture du cercueil. Voyez. Et donc, effectivement, là, au moment de la mort, vous voyez, on a quelque chose de très sobre et simple, des prières comme notre Père, comme je te salue Marie, hein, voilà. Et les prières brèves auprès du défunt peuvent être des prières litaniques ou des lectures de l'Écriture ou des psaumes ou une oraison, vous voyez. Donc, généralement, cela est quelque chose qui peut être accompagné par quelqu'un qui officie ces prières, donc quelqu'un qui n'est pas de la famille en tant que telle, mais qui est envoyé auprès de la famille du défunt. C'est quelque chose qui est en train de changer, c'est aussi justement la place des laïcs dans cet office qui est demandé pour les défunts. Et puis justement, des célébrations et des veillées, ça dépend combien de temps on attend la célébration à l'église, hein, mais vous voyez qu'on le dit au pluriel, parce qu'il peut y en avoir plusieurs si on veut. Ce sont des célébrations de la parole de Dieu, ou bien des veillées centrées sur les psaumes, ou des veillées qui soulignent davantage l'intercession de la Vierge Marie et des saints, ou bien des veillées familiales, tout court. Hein. Et puis, au moment de la fermeture du cercueil, c'est ce moment qui est assez saisissant et peut-être très intense. On va l'accompagner justement d'une prière, d'une célébration qui commence par une prière, des invocations, une lecture brève, le psaume 26, qui est un psaume d'espérance, et la conclusion, vous voyez. J'en oubliais un autre, donc il y a aussi, après la fermeture du cercueil, le départ du corps vers l'église. Et donc, au moment où le corps va vers l'église, au moment de commencer ce déplacement, on a à nouveau une prière commune, un autre psaume, le psaume 22, aussi plein d'espérance, l'oraison de notre Père, et voilà. C'est le moment où on quitte le lieu dans lequel le défunt est mort, voilà, généralement. Voilà. Et puis donc, transfert du corps au lieu où vont avoir lieu les obsèques et la déposition du corps à l'église. Et donc, c'est là qu'on va avoir la célébration à l'église. Vous reconnaissez la célébration de l'Eucharistie hein, en tant que telle. Alors, il peut y avoir l'Eucharistie, mais généralement, aujourd'hui, comment dire ça, la plupart du temps, on ne la célèbre pas. Ça dépend des personnes qui demandent ou non. Ça dépend des personnes qui, s'ils sont pratiquantes, s'ils ne le sont pas, s'ils ne le sont plus. Voilà, tout cela demande un tact pastoral très important. Mais là, nous avons l'exemple d'une liturgie de la parole, hein, donc avec des rites d'ouverture, l'accueil à la porte de l'église. Alors, vous vous rappelez, pour vous faire entendre les tonalités baptismales, vous vous rappelez que le catéchumène commence à la porte de l'église. Donc, il y a là quelque chose comme si le défunt rentrait une dernière fois dans la porte, là d'où il était entré idéalement, par le sacrement du baptême, le chant d'entrée, la salutation, le rite de la lumière. Voilà, vous voyez, à nouveau, là, on va souligner, il y a un caractère baptismal assez important. On allume le cierge pascal, et à partir du cierge pascal, on partage la lumière du cierge pascal avec les fidèles qui sont présents. On peut avoir d'autres rites avec quelques signes autour de la croix ou d'un vêtement qui était propre aux défunts, ça dépend. Voilà. Et puis un rite pénitentiel avec la prière d'ouverture. La liturgie de la parole, il termine par le Notre Père. Alors, pensez que si jamais il y avait une Eucharistie, l'Eucharistie, la messe continuerait par la partie eucharistique, hein. Mais là, on a juste notre Père qui est témoin de l'Eucharistie, et puis le dernier adieu avec l'invitatoire, le chant d'adieu, l'aspersion et l'encensement. À nouveau, vous voyez, on trouve un geste pascal. L'aspersion n'est pas tellement chasser le démon ou purifier le corps. Non, c'est pas ça. C'est vraiment faire mémoire du baptême que le défunt a reçu. et l'encensement du corps comme étant digne de la résurrection. Vous voyez, on disait l'importance de l'encens comme aspect quasi honorifique. Voilà, on rend honneur au corps du défunt. Et puis, l'oraison du dernier adieu et la fin de la célébration de l'Église, avec transfert au lieu de la sépulture et une procession à nouveau. Alors, quand je dis procession dans une ville, peut-être on ne fait pas une procession. Mais j'ai encore personnellement vu, par exemple, pour les obsèques de ma reine, il y a quelques années, puis il y a plusieurs années, et c'est un village de la Vénétie profonde, et là, c'est assez saisissant, la procession qui a lieu de l'église, qui a eu lieu de l'église à la sépulture. Vous voyez les routes du village longées par tous les habitants du village. Vous voyez, il y avait une participation du village lui-même qui était très saisissant, qui était très beau à voir. Il y a une question qui m'est posée là. Ah, c'est quoi le rite du vêtement? Alors, on revient là. C'est-à-dire, je donne un exemple. Je donne l'exemple que je connais le mieux. Par exemple, pour un ministre ordonné, je pense à un prêtre ou un diacre, on posera sur le cercueil l'étole, vous voyez, diaconale ou presbytérale. Pour quelqu'un, je ne sais pas, pour quelqu'un qui a exercé un métier, mettons un militaire ou encore un médecin, on posera le vêtement qui a marqué son métier. Vous voyez, le rituel, c'est ça, c'est-à-dire ou la croix, c'est la croix que le défunt possédait ou qui était présente dans la maison. Vous voyez, donc ça veut marquer un peu, ça veut un peu. Le rite du, la croix, les rites possibles, c'est ça. On essaye comment dire ça, d'inculturer dans les rites de l'Église des aspects plutôt domestiques et familiaux. Voilà. Donc, il peut y avoir des objets. Ça peut être pour quelqu'un qui se servait de la Bible, vous voyez. Donc, ça peut être plusieurs objets. Donc, je disais, voilà, la procession, le transfert de l'Église au lieu de sépulture, bon, s'il est fait dans un cadre plutôt de village, c'est peut-être très saisissant. Dans une ville, peut-être, elle est assez anodine n'est pas marquante. Mais par contre, voilà, autre lieu d'arrêt, ce sera celui où on a l'inhumation, et donc on invite à la prière. On a la bénédiction du lieu de l'inhumation. Si c'est la tombe creusée dans la terre, ce sera ce creux-là. Si ce sera un lucullus, ce sera donc le lucullus. Voilà. Donc, après, on a une prière commune à nous avec la prière litanique. Le cantique de Siméon, qui est une très belle prière, c'est un des cantiques évangéliques. Maintenant, mon maître, tu peux laisser ton serviteur se reposer en paix, parce que j'ai vu ta lumière. C'est une sorte de prière que les fidèles chantent ou prononcent ou disent, comme si pour le dire à la place du défunt, vous voyez. Et puis, une prière qui peut être dite par un proche ou un ami. Vous voyez, il y a une dimension familiale, domestique, à nouveau marquée. Le symbole des apôtres, le credo, vous voyez, donc je crois en la résurrection des morts. Hein. On annonce ce que la foi de l'Église et la foi des fidèles. Et puis l'oraison, l'inhumation et la conclusion. Par contre, voyez, il y avait la question sur l'incinération. Si jamais il y a incinération et des positions de l'urne. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a célébré donc la célébration à l'église devant le cercueil, du coup. Et donc, après, on part vers la crémation, vers le lieu où va avoir lieu la crémation. On aura, au moment où on arrive au lieu où va avoir lieu la crémation, au crématorium, à nouveau une lecture biblique, une oraison finale, notre Père, un geste d'adieu, voyez. Pendant qu'on va avoir lieu l'incinération, et donc qu'on appelle le temps d'attente, hein, on aura à nouveau des textes bibliques de méditation, et puis on va remettre l'urne cinéraire. Et du coup, avec l'urne cinéraire, on va déposer l'urne dans le columbarium. Avec à nouveau, vous voyez, on entoure cette déposition par des prières et on va avoir une conclusion. J'arrête la projection de, donc vous voyez, je conclurai puis je vous donne la parole. La richesse de la liturgie des funérailles, hein. Vous avez bien remarqué qu'on accompagne le corps du défunt du lieu où il a connu la mort jusqu'au lieu où il va reposer, qu'il soit dans son corps ou dans les cendres de son corps. Et dans cet accompagnement du corps du défunt, on accompagne, le corps de l'Église accompagne le corps de ceux qui sont en deuil, voyez. Donc, cela est très important de le souligner. Il y a cette idée de resserrer l'attention par rapport aux ceux qui restent. Et puis, vous avez remarqué ce symbole hautement baptismaux et qui est une imagination pascale affirmée, comme la lumière, l'eau, l'encens, voilà, tout ça, et les déplacements qui disent, comme je le suggérais, ils disent l'exode, le déplacement, la Pâque. Je vais arrêter le partage, et je vous laisse la parole si jamais il y a des choses que vous voudriez prolonger, qui n'ont pas été claires, ou des choses que vous voulez... dont vous voulez faire part, voilà.
Oui, j'ai une petite question. Ma belle-mère est décédée en région parisienne et il y a eu donc des funérailles avec une messe et elle a été enterrée en province. Et en province, la famille a voulu encore une messe là où elle était enterrée. Oui. Et il y en a qui nous ont dit, mais ça ne se fait pas, on ne fait pas deux fois une messe sur un cercueil, etc. Bon, voilà, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il en est? Oui, c'est arrivé deux fois de suite, ça, dans ma famille.
Ah oui, effectivement, ça peut être un peu surprenant, parce qu'il faudrait choisir, est-ce qu'on fait... Mais vérité, la messe que l'on a fait à Paris a un sens, hein. Peut-être qu'il a, pour des raisons pastorales, c'est-à-dire s'il y a vraiment un attachement... du lieu où elle va reposer le corps, ça peut s'expliquer, mais pourquoi pas? Alors peut-être que c'est difficile après de réunir la famille, mais on aurait pu penser à une messe plus tard, vous voyez. Je pense, qui pastoralement pourrait marquer la suite du deuil, vous voyez. Mais ça peut être effectivement un peu surprenant qu'on double la messe et qu'on risque un peu de... Je ne dis pas que c'était le cas, hein, mais ça peut un peu donner l'idée, un peu de superstition, vous voyez. Mais peut-être que peut-être c'est pas ça, c'est plutôt
non,
l'idée.
Non, c'était pour satisfaire tout le monde, quoi. Que tout
voilà,
le monde...
c'est peut-être ça.
À Paris et en province, tout le monde a eu sa messe, quoi. Voilà.
C'est peut-être ça. C'est peut-être qu'il y a un caractère effectivement familial très nuancé.
Mais bon. C'est possible.
Oui, il n'y a aucune chose, aucun empêchement qui est indiqué à ce niveau-là.
Merci.
J'ai une question, Christophe.
Oui.
Je ne sais pas si elle est très catholique, mais... C'est...
Je la baptise. S'il y en a besoin, je vais la baptiser.
Comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, oui. Est-ce que ça serait concevable de son vivant, quelqu'un, disons, donne quelques indications sur comment ça. Pas sur les rituels, bien sûr, parce que c'est un rituel, mais est-ce que un vivant peut choisir certains, écrire un texte ou préparer
ben
des
oui.
prières
ben
qui,
bien
qui
sûr, oui.
soient lues pendant cette cérémonie.
Bien ouais. sûr, bien ouais. sûr. D'accord. Naturellement, avec beaucoup de tact, là encore, il ne faut pas non plus charger ceux qui vont rester après d'aspects peut-être difficiles, lourds, vous voyez. C'est toujours assez discret, peut-être, mais c'est possible, bien sûr.
On peut préparer sa propre messe des funérailles.
Oui, décider que, voilà, c'est même une manière d'être encore présent d'une certaine manière, oui.
Deuxième question, c'est imaginons que quelqu'un est croyant et puis ceux qui l'entourent peut-être sont pas et il n'a pas exprimé sa volonté d'avoir des obsèques
oui.
chrétiennes. Donc là, Bon, ça veut dire que ça dépend des personnes qui vont.
Bien sûr. Mais naturellement, là, comment vous dire, là, Dieu couvre tout, si je peux dire. Donc, il n'y a qu'un problème à ce niveau-là. C'est sûr que, bon, le défunt ne peut plus réagir parce qu'il est défunt. C'est le choix de ce qui reste. Ça peut sembler très étonnant, cette situation-là. Mais ça peut arriver, effectivement, des gens qui ne s'intéressent pas du tout et qui veulent se défaire, c'est pas le bon mot, mais le plus vite possible d'une tâche qui peut-être ne les touche pas. Ouais. Mais ça, c'est le mystère de notre mort. Hein. Quand nous mourons, nous sommes confiés à ce qui reste. Ce sont ceux qui restent qui feront mémoire de nous ou non.
Nous ne mourrons pas définitivement, j'espère. Mais, bon.
Mais nous ne mourrons pas définitivement, notre foi dit cela. D'accord. Bien sûr. Mais je dis, au moment de mourir, on est vraiment au plus bas, au plus loin de nos possibilités, je peux dire.
Merci beaucoup.
Merci Christophe. Donc c'était tout à fait catholique, je n'ai pas voulu baptiser.
Je suis rassuré, merci.
Oui, France, je crois.
Quand il y a les funérailles maintenant qui souvent sont dirigées, guidées, je ne sais pas comment le dire, par quelqu'un, par un laïc.
On dit officier, prêtre, officier.
Voilà, qui est officié par un laïc. Est-ce qu'il y a un rituel très, très précis ?
Oui, c'est exactement celui que je vous ai donné, celui que je vous ai envoyé. Vous voyez ? Je le reprojette pour que vous le voyez, hein, qui existe. Vous voyez ? Il s'appelle, là, je ne vous ai pas tout donné, hein. Il s'appelle un titre très beau, Dans l'espérance chrétienne, vous voyez ? Et ce rituel, ben je le reprends parce que vous pouvez poser la question, il est dit justement cela. Regardez, donc le rituel catholique des funérailles a été approuvé le 25 avril 72. À partir de 71, la Saint-Siège a concédé à certains pays, dont la France, la possibilité que la prière pour le défunt soit dirigée par les fidèles laïcs. Et donc, il a dit que c'était mis en œuvre des décennies après. Donc, pour permettre aux fidèles laïcs de prévoir un déroulement digne et juste des célébrations qu'ils dirigent avec l'autorisation de leur évêque, ce livre propose diverses façons de célébrer et adapter aux évolutions évoquées ci-dessus. Donc, vous voyez, tout est statué, c'est un gros rituel, il est très beau. Il est très beau comme rituel. Bon, je ne pense pas que je vous ai mis la partie rituelle en tant que telle, non, je ne crois pas. Je vous ai juste les notes doctrinales et pastorales, mais on a le rituel, effectivement, avec toutes les prières. Le déroulement que je vous ai montré dans les tableaux sont se développe dans des prières, par des prières qui sont indiquées.
Merci.
Oui, Martine, excusez-moi.
Dans la célébration des obsèques, les points 1, 2, 3, c'est surtout oui. le 2 qui est effectué. Je veux dire que moi j'habite la région parisienne.
Oui.
Il y a rarement des prêtres ou des célébrants au cimetière.
Oui.
Donc les proches peuvent faire une prière, mais c'est quand même quelque chose d'un peu réduit, de réduit.
Je comprends.
Et tout ce qui est maintenant veillée, etc. C'est vrai aussi que c'est.
Oui.
C'est peu fait, enfin, il me oui. semble,
oui.
maintenant.
Oui. Alors, il est clair que, comment dire, il est difficile que les prêtres soient... difficiles.
Bien sûr.
Il y a une pénurie de prêtres, donc oui, les prêtres sûr. Ne sont pas... Ce sont eux qui, peut-être, ne sont pas présents. Mais je pense qu'il y a, par contre, vraiment un souci... de la part de l'Église, de former des équipes de laïcs qui sont appelées à faire ce ministère-là, à officier les funérailles. Et donc, généralement, ces équipes sont formées ou devraient être formées pour accompagner la famille à la maison ou à l'hôpital ou à la maison de retraite où le défunt est mort, et devraient aussi accompagner la famille au cimetière, hein, vous voyez. Donc, on peut le mettre en œuvre dans la mesure des forces des équipes paroissiales. Voilà.
Et je vois qu'il y a une équipe paroissiale, mais ils sont pas assez nombreux pour
pouvoir assurer ça.
Assurer,
oui. Vous voyez comment c'est important, par contre, de susciter, si je peux dire, des vocations, tout ça. Mais vous avez raison, parce que tout change si voilà, en sachant que j'essaie de vous dire un des défis de cela, c'est que tout terrain qui n'est pas, j'emploie le mot mais n'est pas très joli, mais pour vous faire comprendre, tout terrain qui n'est pas occupé par l'Église ou par les équipes de laïcs qui doivent officier des funérailles est occupé par les par quoi s'appelle déjà les
sectes,
non les ceux qui s'occupent des funérailles,
les pompes funèbres.
Ah, oui. Merci. Ah, oui. Par les pompes funèbres qui sont très spécialisées en cela, qui même copient, si je peux dire, des aspects. Je me rappelle toujours, moi vous savez, j'exerce pas de pastoral. Mais justement, un ami parisien dont la sœur avait perdu son compagnon, puisqu'ils n'étaient pas tout à fait en règle, si je peux dire, du point de vue marital, m'avait demandé d'aller au cimetière en tant que diacre. Je suis diacre, donc, pour pouvoir faire les dernières prières. Donc, je suis allé avec mon aube, mon étole, mon livre que je vous ai montré. Mais à la fin de la prière, intervient le type des pompes funèbres, dit « Et maintenant, je vous lis une chanson de Françoise Hardy. » C'était assez étonnant. Du coup, il y avait toute une prise de position de conquête de cimetière par le pompe funèbre qui m'avait beaucoup étonné. C'est la seule fois où j'ai fait quelque chose. Je l'ai fait par amitié de cet ami. Mais j'ai constaté que c'est assez, c'est un défi, ça. Hein? Les pompes funèbres occupent beaucoup de place désormais, de manière, parfois très digne, hein? C'est pas que, mais quand même, ne correspond pas exactement au rituel.
J'ai eu deux fois l'occasion d'entendre membres des pompes funèbres parler, une fois avant l'incinération, donc après la célébration des obsèques et avant l'incinération, et une autre fois dans un cimetière. J'ai trouvé que c'était pas du tout, enfin, c'est pas du tout décalé, que c'était assez
oui, oui,
en phase avec le caractère de la famille qui était pratiquante. Enfin, qui est,
tout à fait, ils peuvent répondre à des... À des à, oui, à...
J'ignorais s'ils étaient ou non eux-mêmes, mais enfin des choses très fortes, peut-être qu'ils étaient aussi dans le...
Oui.
Peut-être aussi qu'ils savent s'adapter suivant
oui,
le...
Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, mais c'est un peu leur intérêt aussi.
Oui, je pense que c'est leur intérêt, mais c'est aussi... Ça peut... Enfin, c'est quand même... Ça peut être bien pour les proches.
Oui, 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 tout à fait. Est-ce qu'il y aurait encore des questions ou des remarques?
Encore une question.
Oui, Christophe.
Cette fois-ci, très catholique.
Oui.
À savoir, on expérimente souvent dans le monde d'aujourd'hui des gens qui ne sont pas vraiment proches de l'Église, qui de... Bah, c'est pas à moi de juger, mais qui ne pratiquent pas, qui sont loin. Et qui demande des obsèques catholiques. Mm-hmm. Donc, quelle est la position de l'Église par rapport à ça?
Mais face à la mort, l'Église accueille tous et toutes. Hein. Mm-hmm. Et donc, effectivement, il y a pas un jugement sur le vécu de la personne. On confie la personne à Dieu. Et donc, le rituel sera vécu comme il est demandé. Ça peut être... un aspect qui, au contraire, peut être intéressant, c'est-à-dire que la mort reste toujours une question et peut nous interroger. Et donc, je ne dis pas qu'on redécouvre la foi, mais on redécouvre peut-être le besoin de nous remettre à Dieu ou de nous remettre à quelqu'un plus grand que nous, vous voyez. Donc, il peut y avoir un côté, me semble-t-il, positif. On peut le voir de manière positive, cela. Hein?
Mais si une personne n'est pas baptisée, elle peut être, quand même avoir des obsèques catholiques.
Ah non, non, ah non, non, c'est, ah non, 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 non. Mm-hmm. Non, effectivement, c'est... non. Non, je pensais à quelqu'un qui avait été baptisé, non, qui non, s'était non, éloigné de l'Église. De... Non, s'il n'est pas baptisé, ça n'aurait aucun sens de faire des signes chrétiens sur lui. Ça n'empêche pas la prière pour le défunt.
Non. Merci.
Voilà, je propose de nous arrêter là. Et donc, je vous salue très sympathique, très affectueusement. Et je vous remercie pour votre présence tout au long de ce trimestre. Hein. Donc, comme j'ai déjà dit à ceux de l'après-midi mardi dernier, n'hésitez pas, si vous en sentez le besoin, vous voulez changer, de m'écrire. Vous avez mon adresse email, vous le demandez à Hélène au secrétariat. Et ce sera pour moi un plaisir d'échanger avec vous. Voilà. Et puis, je vous souhaite des belles fêtes pascales.
Merci.
Nous allons au cœur de notre propre foi.
À vous aussi.
De même.
Voilà.
Et vous de même.
Merci. Voilà.
Merci à vous.
Et bonne nuit.
Au revoir.
Merci pour ce partage. Au revoir.
Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.